Moi je suis amoureux de Paname.
J'aime plus Paris, on court partout, ça m'ennuie.
Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal.
Paris, 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 que je te quitte.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Paris, je t'aime, moi non plus.
Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Raphaël Spagnoli.
Sous le ciel de Paris marchent les amoureux.
Il est né à Évreux, mais a vécu métro Alésia, métro Barbès, métro Poissonnière, métro Belleville. Il est l'homme au Stan Smith grâce auquel les filles de 1973 auront toujours 30 ans. Il est passé maître dans l'art du name-dropping, de Fanny Ardant à Agnès Varda, en passant par Tony Montana, sans oublier les héros de Truffaut. Il a écrit une pièce de théâtre, Le fait d'habiter Bagnolet, mais sur la quatrième de couverture, il est écrit qu'il est chanteur. Il a offert à Jean Rochefort son dernier plan dans le film qu'il a réalisé, Je ne sais pas si c'est tout le monde. Il a photographié jour après jour son intérieur parisien pendant le premier confinement. Il utilise le verbe « bateau mouché » dans l'une de ses chansons. L'une de ses 83 chansons, sans compter les inédites, et dans lesquelles il évoque au moins 62 endroits différents de Paris, dont ceci, la rue Chaptal, rue Condorcet.
Déjà toi, rue Chaptal, robe à pois et sandales. Déjà tes yeux, rue Condorcet, y'aura rien de mieux, rien de mieux après.
Et me voici donc rue Condorcet, 9e arrondissement. Vincent Delerme, bonjour.
Pas mal, pas mal, pas mal. Ça m'a semblé parfait, à un point près. C'est, t'as dit... Tony Montana, je sais pas qui c'est Joe Montana, mais Tony Montana c'est quelqu'un d'autre.
J'ai confondu, alors c'est Scarface.
Ah c'est ça.
Pardon,
ouais,
alors c'est le côté cinéphile qui l'a emporté.
Ah mais justement parce que Joe Montana...
personne c'est qui,
le connaît,
Joe Montana.
Ouais, exactement, c'est ça, ça marche bien, ça va bien avec le... Ah, c'est des trottoirs très très étroits.
Très étroits. Hein.
C'est vrai ce truc que tu disais sur les métros, c'est sûr que c'est... j'avais dû le mettre dans une chanson, dans Le Garçon je pense, le côté... je suis le garçon qui a vécu métro machin, métro bidule et tout, mais... Bon, pour moi, ça comptait, ça a toujours été un point de repère énorme. Enfin, là, tu vois, on se donne rendez-vous, je dis, bon, bah, métro Anvers. Ça fait partie pour moi de, vraiment du fait d'habiter à Paris. Ça fonctionne vraiment en métro, quoi. Je sais pas pourquoi ça a toujours été comme ça. Et même, j'avais vachement la mythologie avant de venir de. Cette pochette d'Yves Simon qui est assis sur un quai de métro, il y avait des images comme ça. Et puis, même au moment où les gens me reconnaissaient le plus, enfin franchement, le seul truc qui m'embêtait, je me disais, ah mince, c'est devenu un peu chiant de prendre le métro. Puis ça s'est vite, très vite calmé, donc c'était bien. Mais ça compte beaucoup pour moi. Et ça a défini quelque chose, et puis il y a une poésie, évidemment, des noms, comme de tous les noms dans Paris, hein, mais sur les métros, ça compte beaucoup, ouais.
Et bien justement, donc, tu m'emmènes en balade dans Paris, au mois de juin, pas encore déserté, à un moment où les Parisiens quand même hésitent un petit peu à partir. Après l'année écoulée, on en voit beaucoup qui décident de s'exiler. Vous êtes un fidèle de Paris.
Ah ouais, bah, c'est-à-dire que j'aime bien, moi, c'est vrai que quand on est chanteur, on a aussi ce truc d'avoir la chance d'être à contre-courant sur les horaires souvent, de profiter des temps creux et ce moment où, voilà, où Paris ressemble un peu à un bahut qui se vide à la fin de l'année avec ceux qui décident de continuer à aller en cours, ceux qui n'y vont plus. Enfin, il y a ce truc-là, hein, qui est très, très présent. Mais c'est sûr que c'est plus simple pour quelqu'un comme moi d'aimer Paris parce que je peux souvent en profiter l'après-midi ou en milieu de matinée. Je dis ça et en même temps, je passe pas beaucoup de temps à flâner, à glander, ce que je faisais beaucoup plus quand j'étais plus jeune. Mais avec les années, étrangement, cet aspect-là disparaît. Mais en tout cas, ouais, je sais pas, par rapport à l'idée d'emmener en balade, c'est vrai que finalement, je réfléchissais à ça, par rapport à ton expression, bah, c'est que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est nul pour emmener des gens, pour dire, ah bah là, tu vas voir, c'est dans cet immeuble-là qu'il s'est passé ça. Après, j'ai une mythologie. La seule mythologie que j'ai sur les lieux vraiment précis, c'est toute une époque où je cherchais beaucoup à retrouver des lieux de tournage. Donc, voilà, ça, je sais où dans Paris, où la maison a été tournée magnifique, je sais où est la cour de domicile conjugal, et même des trucs vraiment de sous-culture, pas de films. Là, j'ai cité De Broca et Truffaut, oui. mais vraiment, c'est ça. J'adore ce truc-là, de me dire, tiens, c'est là que ça a été tourné. Alors, du coup, il faudrait qu'on tourne là.
Ah oui.
Voilà. C'est qu'on descende. Mais par contre, j'ai le sentiment d'ailleurs de pas aimer ça. Je déteste les visites guidées. C'est mon angoisse, quoi, quand on fait partie d'un groupe qui doit suivre le tempo pour regarder des tableaux ou des sculptures et pas avoir la possibilité de zapper une photographie dans une expo de photos. Enfin, et au contraire, de pas avoir la possibilité de rester un peu plus longtemps devant une autre. Ça m'angoisse un peu. Mais quand t'es chanteur, en fait, en tout cas pour moi, j'ai toujours eu l'impression que t'emmènes un peu en balade d'une autre manière, c'est-à-dire que tu mets ton ambiance, qui est un truc qui est pas tellement facile à faire finalement dans la vie, parce que si tu te promènes à quelqu'un, tu vas pas lui dire, ah bah tiens, on va aller par là, parce que je sens qu'il y a plutôt une bonne ambiance, je saurais pas dire pourquoi. Et quand les gens sont entre guillemets clients de ce que tu fais, qui sont venus voir un spectacle, tu sais que tu peux jouer sur cette sensation-là, et c'est ce qui fait que même, franchement, moi j'ai toujours eu la sensation que les seules personnes qui me connaissaient, c'était celles qui avaient vu des spectacles, par exemple, ou en tout cas qui étaient restées un moment avec moi. Moi je suis pas quelqu'un... sur un titre en télé, j'ai toujours le sentiment que j'arrivais pas du tout à installer quelque chose. Et c'est ce qui est aussi à l'origine de souvent d'une double image. Les gens qui connaissent comme ça, d'une manière isolée, un titre, qui se souviennent d'un passage dans une émission. Et puis des gens qui connaissent un peu mieux, tu vois. Mais c'est valable pour tout le monde et pour tous les êtres humains, cette chose-là. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, dans ce que je fais, c'est très, très vrai. Et j'ai toujours senti, je me souviens même quand je faisais des premières parties, je disais toujours, mais j'ai combien de temps? Et si on me disait, c'est 10 minutes, je me disais, ça va être chaud pour installer un truc. Il y a un truc un peu diesel. Mais par contre, une fois que tu rentres dans la logique de ça, c'est super agréable parce que c'est comme une sorte de piscine dans laquelle tout le monde est plutôt à l'aise, la température convient à tout le monde et...
On est bien dans le bain.
Ouais, que les concerts sont agréables à mener pour ça aussi, parce que t'as quelque chose qui est... Tout le monde est d'accord, mais ça toujours, ce truc-là est permanent, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire que c'est lié au début, aux premières années où tu commences, mais en fait, t'as toujours ça. Et puis je joue avec ça, quand j'ai fait le film il y a un ou deux ans, bah c'est pareil, ce film, le premier quart d'heure, tu sais pas trop, quoi.
La force physique. Mon père au flipper, la force était violent. Le rapport du corps à la machine, les mains, les hanches, les réflexes. À la fin de sa vie, je le regardais et je repensais à sa force au flipper. C'était impossible de penser que c'était la même personne.
Je sais pas trop quoi en penser, je sais pas trop dans quel sens ça va. Et puis il y a un moment où tu dis, ah oui d'accord, en fait, bon, je vois, je sens le truc, je me détends un peu, les muscles du cou se relâchent, tu vois, dans le fauteuil. Et il y a toujours eu ce truc-là. Et finalement, dans Paris, on s'est éloigné de Paris, mais dans la manière de rendre compte de Paris, je voulais ça aussi. C'est-à-dire que j'ai jamais fait, je crois, une chanson qui dit là, cet endroit-là, il y a cette sculpture-là, où il y a... C'est une sorte de parfum qui est venu tôt. Pour moi, très présent dans le baiser Modiano, parce que, en plus, comme je voulais qu'elle soit un peu à la Modiano, ou tenter de faire un truc dans ce goût-là, je voulais qu'il y ait vraiment ce truc de parfum dont tu sais pas trop d'où ça vient, un peu brumeux, un peu brouillardeux, et qui avait à voir aussi avec un mélange de choses qui faisaient sens pour moi, à la fois parce que ce quartier-là qui dépeint dans le baiser Modiano, c'est le quartier où habitait ma grand-mère, au-dessus du square Carpeaux, où j'allais un tout petit peu quand j'étais enfant, enfin certains dimanches, et puis on repartait en Normandie ensuite. Donc à la fois je chopais quelque chose de cet endroit-là, mais qui était vraiment de passage. Le mélange dans l'enfance, quand même, souvent j'ai cette image, enfin cette impression que c'est une sorte de, à la fois de purée de pois et en même temps de choses très très précises, très aiguisées, de sensations très très pointues. Donc tu peux te souvenir de trucs, enfin voilà, ce truc de se dire c'est ce soir-là, je me souviens très bien, il y avait cette ambiance-là. Mais après, le fait de la faire parvenir à d'autres gens, ça rejoint aussi, enfin ce truc je pense que pas mal de gens ont, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu te dis bah en fait là, voilà, comme c'est la personne de ma vie, je sens. En tout cas, idéalement, j'aimerais arriver à transvaser une bonne partie du disque dur que je garde pour moi depuis toujours sur les sensations, le flou des choses, des souvenirs vagues ou des souvenirs précis. Puis puis bon, assez rapidement, tu te dis, mais non, mais en fait, c'est pas la vocation d'un couple. De... Et puis, j'y arriverai jamais, quoi. Il y en a trop et c'est foutu pour une seule personne, pas pour deux. Donc, Paris, c'était un enjeu pour moi. C'était un enjeu parce que j'ai beaucoup fantasmé sur Paris et notamment à cause des chansons. Parce qu'il y en a beaucoup, des chansons sur Paris. Quand on dit ça. Les gens, ils pensent souvent à des chansons de...
De Fréhel.
Oui,
de
Francis Lemarque.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines le cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime. À Paris.
Mais il y a beaucoup de chansons avec un peu de... Juste un petit moment où il y a une atmosphère, comme... C'est beaucoup des chansons d'Yves Simon quand même, souvent, mais c'est aussi Brouillard dans la rue Corvisart.
Toutes ces choses-là, on se les murmure tout bas, le soir dans la... Le bar tabac a éteint ses lumières.
Le soir descend et nos regards s'éclairent. L'hiver très tôt allume ses lumières.
Palais Royal, le Chanfort aussi, c'est une chanson qui m'a toujours fait beaucoup d'effet parce que je m'y voyais un peu dans ce truc de marché, il y a un truc sur les réverbères. Paris, très tôt allume ses lumières. Et donc voilà, c'est un soir d'hiver. Et c'est un texte qui est vraiment très très beau, Palais Royal. Et en plus, qui est très beau aussi parce qu'il va sur un terrain qui est très rare en chanson, qui est le début amoureux. Ce qui paraît fou, parce que c'est quand même un truc génial, les débuts amoureux. Et tu pourrais te dire, ah bah oui, évidemment. Mais en fait, non, le terrain amoureux, il est beaucoup analysé sous l'angle de la fin et pas du début. Et c'est rare, en fait, il y a des vraies bonnes chansons, parce qu'en France, il y a une grande peur du côté cucu, du côté...
Sentimentaliste.
Oui, premier degré, et t'es toujours un peu protégé quand tu fais des choses un peu déprimées. Tu vois, moi, sur mon premier album, Cosmopolitan, c'est une chanson de fin.
De rupture.
Bah ouais, qui correspond pas à grand-chose, en fait, alors que L'heure du thé, qui est une chanson de début, sur le même disque, d'un début amoureux, elle correspond vraiment à un vrai truc.
J'étais passé... Pour prendre un thé, caramel ou vanille, ben non, j'ai plus que vanille.
Mais Cosmopolitan, pour moi, je trouvais ça plus simple, parce que voilà, si tu fais une chanson de rupture, personne va venir t'embêter, parce que on dit le pauvre, il s'est fait plaquer, on va pas lui dire que sa chanson est nulle. Alors que quand tu fais une chanson qui dit, en fait, en ce moment, ça va assez bien dans ma vie, j'ai un bon truc. Alors là, bing.
On tombe dessus.
Square Montholon.
Square Montholon, juste en bas.
Enfin, on le domine. Justement. Et en fait, on est rue de Bellefond. Ouais. J'ai vécu vraiment longtemps, au 4, au bout de la rue. C'est là que j'étais, au moment où j'avais fait ce...
Les piqûres d'araignée.
Tiens, ouais. Et Marine.
Ouais, Square Montholon.
Square Montholon, et puis déjà toi. Et c'est une rue qui est pratique pour les étudiants en cinéma, parce que c'est une des seules rues qui passe au-dessus d'une autre. Donc en fait,
ouais.
Bon, maintenant, il y a des drones, mais à l'époque, il n'y avait pas tellement ça. C'était en 2006 et du coup, tu avais souvent des gens qui venaient filmer des plans comme ça, vus du dessus d'une rue. Et c'était, je crois qu'il y en a deux dans Paris comme ça.
Du coup, m'asseoir sur un banc 5 minutes.
Ah, mais ça, c'est d'un autre chanteur. Voilà. C'est pas de moi.
Pardon, ah bon.
C'est toujours des regrets de ne pas avoir écrit des chansons incroyables comme ça. Qui est quand même une drôle de chanson parce que ça repose beaucoup, je trouve, le charme de cette chanson sur l'accompagnement de piano. Et on ne sait pas trop qui l'a écrit. Bah, la musique est de Renaud, la mélodie, mais le jouage de piano, et notamment le gimmick de début, il fait quand même vraiment partie du morceau. Mais c'est une autre époque des crédits. Aujourd'hui, tu pourrais vraiment pas faire ça. Ouais. C'est bien, d'ailleurs, parce que c'est important. Là, en l'occurrence, franchement, ce truc, ça fait, c'est la moitié de Mistral gagnant pour moi.
On aurait pu aussi se retrouver quai des Grands Augustins, rue Saint-Séverin, qui évoquait leur butée tout à l'heure, ou même peut-être devant la vipère du Gabon de la ménagerie.
Oui, quai des Grands Augustins et rue Saint-Séverin, finalement, ça correspondait pas à tant de choses que ça, parce que c'est des coins où j'allais un peu quand j'étais pas du tout parisien, quand j'étais à Rouen, que je venais passer une journée, je me souviens notamment de quand Barbara est morte, je me suis dit, bon, bah là, je vais pas en cours demain, je prends un train, je vais à Paris, je vais aller marcher un peu dans des endroits où... J'étais au Batignolles, enfin dans des endroits qui étaient liés à Barbara. Et en fait, comme je connaissais peu Paris, j'allais toujours un peu dans le même coin. Donc j'allais effectivement au Jardin des Plantes, qui abritait aussi une scène du Magnifique, où il se court après dans les jardins avec Jacqueline Bisset. Et j'allais aussi à cette ménagerie du Jardin des Plantes, parce que je la connaissais depuis toujours. J'ai mon parrain vivait en Afrique, et c'est lui qui ramenait des serpents à un moment donné, dont la vipère du Gabon, pour la ménagerie du Jardin des Plantes. Mais c'était moins révélateur parce que J'ai fait partie d'une vague de chanteurs qui étaient un peu associés à un côté un peu Saint-Germain-des-Prés aussi. Et moi, c'est vraiment un coin que j'ai traversé et qui est très charmant, mais qui ne correspond pas à grand-chose pour moi. Alors qu'ici, voilà, c'était vraiment... En plus, honnêtement, Les Piqueurs d'Araignées, c'est mon troisième disque. Et c'est la première fois que j'ai eu à faire un disque en tant que disque, en fait. Parce que sur le premier, c'était des chansons qui dataient des 4, 5, 6 années que j'ai pu écrire avant le premier. Et donc ça, c'est très classique. Hein. Tous les gens qui font un premier album, c'est souvent des chansons qui se traînent depuis un moment et puis qu'ils ont mis de côté depuis longtemps, qui se mélangent avec des plus récentes. Le premier, l'exploitation du premier avait duré très longtemps. Vincent Frérebaud, tôt ou tard, voulait qu'on fasse assez vite le deuxième et j'avais utilisé des chansons qui, des fois, dataient d'avant le premier aussi. Donc en fait, je ne l'ai pas pensé comme un disque. J'ai fait... le deuxième, c'est un 10 titres et j'ai dû écrire 5-6 chansons. Et mentalement, je n'avais pas fait un vrai disque. Alors qu'à partir du troisième, là, ça y est, il fallait vraiment partir de zéro, faire 13 titres et c'était le cas de celui-là.
Alors j'ai préparé une petite adaptation du questionnaire de Proust, sauce parisienne.
Ça marche.
Si vous voulez bien vous y soumettre, on va commencer grand et fort. Si vous étiez, Vincent Delerme, un monument de Paris.
Idéalement, j'aimerais être un parc, tu vois, parce que abriter des gens, de la vie. C'est vrai que les parcs, c'est quand même les buts de Chaumont, le parc Montsouris. Mais bon, monument, s'il faut en trouver un, je dirais une statue, au moins c'est quelqu'un. Mais j'aime assez bien la statue de Montaigne en face de la Sorbonne parce qu'elle a le pied tout usé, tout lustré, parce que les étudiants, ils touchent le bout du pied pour se porter bonheur. Et du coup, c'est une statue qui est tout, un peu triste, avec juste le bout du pied qui est tout doré. Et c'est un monument, c'est une statue que j'aime bien.
Cinéaste, cinéphile aussi, si vous aviez une salle obscure de prédilection dans Paris.
En fait, j'avais beaucoup, en commençant la mythologie de la rue Champollion, c'était même une chanson que j'avais faite qui était... C'est plus la file d'attente que je chantais pour ouvrir longtemps mes premiers spectacles, la première tournée. Mais après, récemment, je dirais le cinéma des cinéastes, parce que c'est là qu'a été diffusé le film que j'avais fait, et uniquement là, parce que ça c'était quelque chose que je voulais, que ce soit dans un seul cinéma. C'était assez courageux de leur part, parce que personne n'avait trop de visibilité sur ce que ça allait donner. Et puis c'est un quartier que j'aime bien, parce que c'est à la place Clichy, c'est près de l'Européen où j'ai commencé, c'est la... cet axe-là, la ligne 2 de métro, hein, on revient au métro, c'est vraiment la ligne des salles de spectacle. Place Clichy, c'est l'Européen, puis t'as la Cigale, l'Élysée Montmartre, enfin voilà.
Justement, c'était la question suivante, sachant que j'ai ma petite idée, mais si vous étiez une salle de spectacle...
Bah oui, évidemment, je serais la Cigale, enfin si je pouvais, si j'avais le droit, hein, évidemment, ça fait un peu... Ouais, je serais la Cigale, si j'ai une baguette magique, parce que bon, ça c'est une histoire que j'ai racontée, et puis même j'avais fait un bouquin, parce que j'avais fait des entretiens avec mon grand-père avant sa disparition... Je vous ai raconté sa jeunesse et notamment ça, le fait que sa mère était ouvreuse quand c'était un cinéma, qu'elle était ouvreuse à la Cigale. Donc de loin, je connaissais la Cigale depuis toujours, il m'en avait toujours parlé. Et puis en fait, la première fois que j'y ai joué, en plus, j'ai trouvé que c'était vraiment parfait pour ce que je voulais faire. C'est-à-dire que t'as quand même ce truc, ce fantasme d'avoir beaucoup de gens face à toi, mais ça reste raisonnable, puisque quand t'es en assis, c'est 800 personnes. Mentalement, tu sais qu'à... au plus fort de la queue, ça va jusqu'à la pharmacie qui est un peu plus loin sur le trottoir, donc tu arrives à visualiser. Je trouve que ce qui est toujours un peu déboussolant de ne pas arriver à visualiser le contenu d'une salle de gens qui sont venus. Mais en même temps, ouais, y a une sorte de fièvre énorme, ça réverbère beaucoup. Et puis j'ai toujours cette sensation que c'était vraiment parfait comme endroit pour le registre dans lequel j'étais, c'est-à-dire à la fois de vouloir que ça prenne, qu'il y ait une bonne ambiance, et en même temps d'avoir un truc où tu parles aux gens un peu de manière très proche. Quand tu évoques les sujets que j'évoque, ça... Tu peux pas te dire que t'as le bord de la scène, puis un mètre, puis une barrière en fer, et puis des gens derrière, quoi. Je savais que je voulais pas ça. Et puis voilà, la Cigale, c'est vrai que je l'ai fait tellement de fois. Et même à un moment donné, je me suis forcé à plus la faire. Je me suis dit, bon, allez, il faut quand même un peu...
Aller voir ailleurs.
Faut arrêter un peu. Et là-dessus, à un moment donné, on a dû à refaire un dernier passage sur une tournée à Paris. On a fait la Cigale, pas par dépit ni par défaut, mais juste... Et là, en la refaisant, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu d'en partir si longtemps, quoi. En fait, c'est tellement incroyable, cette salle. Ouais. Je saurais pas complètement expliquer pourquoi, mais c'est aussi la chance d'avoir pu faire des longues séries là-bas, de revenir l'après-midi, d'y passer du temps, cette petite entrée, les escaliers. Aussi, c'est bien, c'est une salle... Tu passes par l'avant quand tu veux y retourner, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des salles où ils te demandent, où la journée, l'entrée publique est fermée, et tu passes par une sorte d'entrée des artistes de côté, et ça te met moins dedans, en fait. C'est toujours agréable de passer par l'entrée. En tournée, j'essaye toujours de passer par l'entrée publique, parce que même si c'est 14h et que ça n'a rien à voir avec ce que ce sera le soir, ça te met un peu dans la tête le cheminement qu'auront les gens qui vont venir aussi, et j'aime bien ça. «
j'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer.
Je sais qu'il y a énormément de gens qui ont découvert, grâce à vous, les gens qui doutent. Et que Anne Sylvestre disait qu'elle aimait beaucoup cette chanson, mais qu'elle n'aimait pas être résumée à ça.
Mais... Anne Sylvestre, il y avait beaucoup de choses qu'elle aimait pas. Hein, mais elle grinchait souvent sur ces sujets. Tu peux pas être connu pour tout ce que t'as fait. Évidemment que toi, tu dis, attends, mais j'ai une zone sur mon corps, là, à l'arrière du genou, qui est magnifique, mais que personne connaît. Bah ouais, mais bon, c'est la vie, quoi. Évidemment que dès que t'as quelque chose qui est très identifié dans ton répertoire, assez vite, tu trouves que c'est un peu déséquilibré, que peut-être ça mérite pas à ce point-là, mais tu vois, moi, le premier album a beaucoup fonctionné, Fanny Ardant, Tes parents, c'est des chansons, maintenant, qui ressemblent pas aux chansons que je fais aujourd'hui, mais je continue de les aimer pour ça, parce que, du coup, tu rencontres des gens, ça t'enlève aussi une idée qui est, peut-être qu'il pourrait y avoir des gens qui vont bien aimer ce que je fais, mais ils en entendront jamais parler. Donc voilà. Donc Anne Sylvestre, oui, cette chanson, en fait, on l'a faite avec Albin et Jeanne.
À La Cigale, justement.
À La Cigale, oui, sur une série de soirées où chaque soir il y avait un invité différent et qu'on avait regroupé sur Favorite Song. D'ailleurs, elle était dans la salle ce soir-là, Anne Sylvestre. Mais par hasard, je crois. Je crois que ça n'avait pas de rapport avec le fait qu'on fasse la chanson. Et à ce moment-là, Anne Sylvestre était vraiment quand même très identifiée chanteuse pour enfants, sauf des gens qui avaient grandi dans une famille où les parents connaissaient les chansons pour adultes. Et là, du coup, c'était très important, mais c'était important d'une manière un peu sérieuse, quoi. C'était pas Léo Ferré, mais il y avait un truc un peu genre « Ah, mais une chanson pour adultes !» Et alors qu'elle a fait aussi des chansons pour adultes légères, aussi. Mais voilà, il y avait cette opposition-là. Et du coup, on trouvait ça un peu dommage, parce que quand on citait son nom, souvent les gens disaient « Ah oui, il est Fabulette !» Donc elle, pour le coup, elle détestait ça, effectivement, être résumée aux Fabulettes, ce que je peux comprendre. Mais donc voilà, on avait fait la chanson pour ça, et puis après, elle a eu un parcours, il y a eu d'autres choses depuis. Et puis c'est comme un slogan, je l'ai vu sur un mur, là, récemment, tagué... J'aime les gens qui doutent. Et c'est curieux parce que moi, c'est une chanson que j'ai chantée qu'une fois dans ma vie, ce soir-là. Et je pense que, tu vois, c'est une chanson qui remonte le plus dans les trucs. Si tu tapes mon nom sur Apple Music, tu vas avoir vite les gens qui doutent. Ouais. Albin, il m'avait dit pareil aussi. Ouais.
La musique, justement, les chansons qu'écoutent les parents. On fait sa propre playlist, on sélectionne, on subit.
Non, moi, j'ai pas subi parce qu'assez tôt... J'ai quand même vraiment eu la sensation que les chansons de Souchon, les chansons que j'adorais d'Isabelle Maïro, pour moi, étaient quand même meilleures que celles de Powo. Donc en fait, c'était assez étrange même, parce que, évidemment, il y avait la pop, et puis il y avait que mes parents, ils n'écoutaient pas les Smiths, ils n'écoutaient pas Cure, ou des groupes comme ça que j'écoutais moi. Mais sur le territoire chanson, j'ai toujours trouvé que ça m'intéressait plus, quoi. Gilbert Lafaille, les premiers Châtel, Jean Sommers.
Paris, béret, baguette. Java, lampion, musette, Pigalle, des Hollandaises qui s'encanaillent, Bruant, Goulu, Lautrec.
Et d'ailleurs, après, les choses qui ont été vraiment, je trouve, puissantes pour moi, même quand j'étais ado et que j'ai commencé à vouloir faire des chansons, c'était des gens qui étaient de cette génération-là, qui étaient Scheller, qui étaient Barbara. J'avais 15 ans, j'étais au lycée, évidemment qu'on adorait des trucs apparus plus récemment. Mais aussi, il y avait beaucoup de trucs qui ne nous parlaient pas. Puis après toute la phase des comédies musicales, le son 90, qui était un son très froid, très compressé. Et en tout cas, ce fait d'avoir des idoles qui avaient des fois 50 balais alors qu'on en avait 15, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout aujourd'hui.
Les gens vous suivent, ça fait bientôt 20 ans.
Mais oui.
Les gens vieillissent avec vous, même si justement les filles de 1973 gardent leurs 30 ans.
Ah ouais, c'est quand même un truc qui est super, puis qui fait partie de l'histoire de la chanson aussi. C'est-à-dire que tu peux pas... Il y a quelques chanteurs qui sont omnubilés par le fait que d'avoir un public jeune, donc qui essaye d'appuyer sur tous les boutons, de se renseigner tout le temps sur le producteur qu'il faut avoir pour machin, mais c'est un peu comme de faire de la chirurgie esthétique, c'est un truc qui est un combat qui est un peu perdu d'avance, parce que il y a des gens qui te découvrent après coup, mais oui, c'est sûr que tu le vois dans une salle, le moment où, en commençant telle chanson, une personne va mettre sa tête sur l'épaule de la personne qui est à côté, et tu sens qu'il y a un lien grâce à cette chanson-là. C'est vraiment un truc qui est hyper émouvant et qui est lié aussi aux années, quoi, et à la durée. C'est vraiment une chance de faire ça longtemps, parce que les gens se disent toujours « Bah oui, regardez, Charles Trenet, Aznavour, bah oui, mais bon, il y en a deux, quoi. Enfin, » parce que Gilbert Bécaud, Jean Ferrat, bon, voilà, ça a disparu. Donc voilà, c'est pour ça que c'est super d'avoir cette confiance-là aussi à chaque fois dans le projet qui suit, d'avoir la permission de faire aussi des choses différentes. C'est-à-dire que maintenant, ça fait 20 ans que je fais ça, mais tu vois, quand j'ai fait Memory, qui est un spectacle qui contenait des chansons, mais qui était plus un truc de théâtre, puis qui était un peu bizarre, parce que c'était difficile d'en parler avant de l'avoir vu. Et là, le fait que les gens suivent, et à partir de là, il y a une sorte de bascule qui a été, bon, bah nous, on a plutôt confiance. Après, ça, on peut trouver ça nul, ce qui est proposé, mais moi, j'ai jamais ressenti, quand j'ai un nouveau projet à faire pour la scène et tout, je me dis pas, ah oui, mais attention, il faut quand même que je mette cette chanson-là, ou il faut que je fasse ça, parce que sinon, les gens vont être déçus. C'est comme s'il y avait, moi, je pense être quand même assez bosseur. Je passe beaucoup de temps à préparer les spectacles et tout ça, et du coup, il y a cette confiance, elle est vraiment super précieuse, mais c'est valable aussi avec les techniciens qui t'accompagnent sur une tournée, parce que les premières années, si tu leur dis « faites-moi confiance, on va juste, il y aura un tabouret à cet endroit-là, puis à ce moment-là, je vais le prendre, je vais le mettre là, et puis, ça va être, et puis tout le monde va rigoler. » Bah oui, c'est ça, ça va faire marrer tout le monde de déplacer un tabouret. Et puis en fait, tu le fais, évidemment, c'est dans un contexte, et puis ça fonctionne. Enfin là, l'exemple n'est pas bon, parce que ça va faire peur aux gens qui connaissent pas et qui vont dire « c'est bizarre, le spectacle de Delerme, il déplace des tabourets. » mais en tout cas, oui, voilà, le fait d'avoir des gens qui ne remettent pas en question, a priori, ce que tu as prévu de faire, et qui se laissent porter en disant « bon, je crois qu'il connaît un peu le truc », et ben ça, c'est vraiment agréable, parce que ça détend tout le monde, et puis ça permet de faire évoluer les spectacles aussi. En France, il y a quand même beaucoup une tradition des artistes qui disent « on nous enferme dans une catégorie », mais je trouve que c'est souvent un truc de paresse, parce que quand j'ai fait un film, personne ne m'a dit « t'as pas le droit de faire un film parce que t'es chanteur ». Quand je fais une expo de photos, on me dit pas « c'est interdit, qu'est-ce que tu fous là, dégage, t'es chanteur ». Enfin, donc, proposer quoi.
Oui, ça fait un bel univers quand même, ce mélange de... Justement, vous parliez d'Instagram, vous y êtes très présent avec vos photos, l'écriture, la mise en scène, les chansons. C'est tous ces univers mélangés, ces univers Vincent Delerme. Et il y a une vraie... J'ai l'impression qu'il y a une vraie fidélité chez vous. Vous avez parlé des techniciens, de la maison de disques. Et alors justement, si vous étiez infidèle à Paris, ce serait plutôt Week-end à Rome ou une maison bleue accrochée à la colline?
Vous savez bien que ce serait Week-end à Rouen. C'est la seule chose souvent qui me tiraille, parce que j'ai vraiment adoré vivre à Rouen. Et comme mec qui fait des chansons, quand j'étais à Rouen, j'avais vraiment l'impression qu'on était 6 ou 7 à essayer de faire ça, alors qu'à Paris, tout le monde a envie d'être chanteur. Et donc, c'est pas la même chose que tu vas répéter au studio Bleu ou des petites écuries. Tu vois toutes les filles qui passent un casting pour chanter. Enfin, c'est... Et il y avait ce truc aussi, c'était une ville très calme, Rouen. À partir de 21h, il n'y a presque plus personne dans les rues. Et quand tu es étudiant là-dedans, que tu fais du théâtre avec une troupe et tout, tu te sens très vivant, tu as l'impression que la vie, c'est toi. Et puis même, j'adore Rouen, c'est une ville que je continue d'adorer. Mais alors, attends, tu m'as dit Rome, bah Rome... Rome, il y a tout un pan italien que j'ai de temps en temps mis, qui est plus lié à l'été, aux photographies de Claude Nori, à toute cette esthétique-là. Nanni Moretti, ouais, ça c'est vraiment... Ouais. Chanson pas très connue.
Nous aimons l'Italie, Nanni Moretti, les écrivains mariés.
Et puis, une sorte de charme comme ça. Je crois que c'est Jean-Pierre Léaud qui avait longtemps un badge Kiss Me, I'm Italian. J'avais essayé de faire une chanson qui s'appelait comme ça. Mais après, les États-Unis, bah non, la côte californienne, j'ai le moins. Ouais. Enfin, si, maintenant j'ai... David Dermandjoun qui vit là-bas et que j'adore musicalement, et puis surtout la vie qui est autour de lui, ça fait toujours envie. C'est vraiment le mec qui fait ses sculptures, des dessins, il chante, il branche sa caméra, il joue, puis il se boit son thé en même temps. Enfin, il y a un truc très naturel que je jalouse un peu. Ouais.
Si vous étiez un dimanche idéal à Paris?
J'aime bien les fois où tu pars marcher et où tu vas vraiment plus loin que tu avais pensé. C'est assez fort aussi quand t'as des enfants, parce que les enfants, a priori, sont pas très pour, sur le papier, marcher longtemps. Moi, j'ai la chance d'en avoir deux, et deux garçons qui se parlent beaucoup, donc souvent, ils s'en rendent pas compte qu'on a avancé pas mal. Et à un moment donné, ils disent « mais on est loin, là, non ?» Bon, on peut peut-être rentrer à pied quand même. Enfin, il y a un truc qui te met ailleurs. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui permet de contrarier un peu le mouvement des dimanches que tout le monde connaît, du dimanche soir. Il y a eu beaucoup de textes là-dessus, y compris un texte de mon père que j'adore.
La première gorgée d'hier, ouais.
C'est même moi qui aime plutôt démarrer une semaine, le dimanche soir, il se passe un truc qui... Bon, ça doit sûrement être présent dans le texte de mon père, parce que c'est très sa tournure d'esprit, ça. Qu'un moment convoque tous les moments qui ont été un peu liés à ça auparavant. Et le dimanche soir contient tous les dimanches soirs de toute la vie, quoi. Et ça, c'est très vrai. T'as ça aussi l'été, parce qu'en plein été, tu sais, peut-être t'as plus la place pour faire revenir des sensations qui ont été vécues avec la même température, la même saison, parce que t'es moins dispersé, parce que t'as moins de mails à répondre, quoi, tout simplement. Et le dimanche soir, c'est un peu pareil, t'as un peu la place, quoi. J'imagine peut-être que si c'était le mardi entre 14 et 16, qu'on avait toujours pu ne rien foutre de notre vie, c'est peut-être là qu'on aurait un vrai truc, mais c'est le dimanche soir.
On en a parlé déjà du métro, mais si vous deviez choisir une station de métro.
Non, aujourd'hui je dirais Belleville parce que j'habite là-bas et que c'est un métro, là, il n'y a que deux lignes, mais c'est deux lignes qui n'ont vraiment rien à voir, quoi. Parce qu'elles sont déjà à la perpendiculaire l'une de l'autre et puis que ouais, il y en a une qui te mène donc vraiment complètement sur les côtés de Nation à la place Clichy.
Qui traverse vraiment tout Paris.
Et l'autre qui monte vers Jourdain et tout ça. Mais plus, je dirais pas vraiment une station, je dirais plutôt les parties en plein air du métro qui m'ont toujours fait de l'effet.
Les métros aériens.
Ouais, les métros aériens, c'est un truc que j'ai souvent mis dans des textes et tout, parce que j'avais cette façon de passer, de voir les fenêtres des gens, de voir un intérieur pendant une demi-seconde, tu vois, une suspension, quelqu'un qui traverse un salon, et ça me fait un effet.
Plutôt rive gauche ou rive droite ?
Alors, c'est marrant, j'ai toujours du mal avec cette expression, comme les mecs qui confondent leur gauche et leur droite, parce qu'à Rouen, c'est l'inverse. La rive droite correspond à la rive gauche, enfin, c'est-à-dire que moi, je suis donc rive droite. Rive droite. Et rive gauche, par exemple, pour les salles de spectacle, il y a très peu de choses. C'est vraiment un autre pan de salle, et d'ailleurs, c'est pas des salles très chansons, toutes les salles qu'il y a dans ce coin-là. Rien que pour les concerts, c'est rive droite.
Justement, la photo, la culture en général, là, qui a été quand même bien mise à mal cette dernière année, si vous étiez un musée.
Ah bah musée de la vie romantique, parce que il est marrant, bah, je dis ça, bah, où j'aime bien ces musées où il n'y a personne, un peu justement un peu le mardi entre 14 et 16 quoi, même si les musées sont fermés le mardi, j'ai bien conscience, l'exemple est pas bon, mais ouais non, il y a la maison de Balzac, c'est un peu pareil, des fois t'y vas puis il n'y a personne, enfin je suis un peu fils unique aussi, un peu j'aime bien être seul dans mon coin, en tout cas j'adore voir des gens, mais pour ce qui est de respirer, des atmosphères, des choses comme ça, j'aime assez bien être seul. Voilà, et c'est vrai que je vais peu au musée, mais si j'y vais, c'est un peu pour trouver un parfum d'un truc et tout, et c'est sûr que j'ai pas envie que ce soit bondé et de piétiner pour attendre de passer dans la salle suivante. Donc pardon pour ces deux musées, là j'ai l'air de les présenter comme étant des musées où il n'y a personne, ça fait pas une super promo, mais il y a sûrement des moments où ils sont très très pleins. En plus, c'est souvent des maisons réhabilitées en musée, quoi. C'est un truc qui a un charme.
Si vous aviez des amis, de la famille, en tourisme à Paris.
Moi, j'étais très, très attiré quand je suis arrivé par les passages Jouffroy, pas très loin d'ici. Aussi, c'était un des trucs que j'aimais bien dans ce quartier-là, c'est qu'on n'était pas loin de ça, de Bonnes Nouvelles. Et puis, tu vois ce restaurant, Victoria Station, tu vois, c'est une pizzeria où tu manges dans des wagons de train. Non, c'est pareil, c'est vraiment pas bon du tout. Hein. Les pizzas sont pas du tout les meilleures de Paris. Mais par contre, les wagons de train sont un peu les seuls de Paris.
Si dans le ciel de Paris s'envolait une chanson.
T'as plein d'endroits qui ont été chantés. Donc en fait, plein de rues. Donc moi j'habite Belleville. Donc le truc, cette idée, je sais bien que rue de Belleville, rien n'est fait pour moi.
Je sais bien que rue de Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça.
C'est où il y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Ça me saisit souvent parce que c'est vraiment ça. Et t'as beau dire que c'est un quartier qui a changé et tout, en fait, pas tant que ça. Donc c'est toujours très très vrai. On est dans Paris. En fait, je dirais la Tour de Pise de Jean-François Cohen, parce que c'est pas une chanson qui parle de Paris, mais c'est une chanson dont le clip de Gondry, qui a d'ailleurs fait beaucoup connaître cette chanson, a été constitué d'images de films en Super 8 d'enseignes parisiennes qui reconstituaient les paroles de la chanson. C'était des néons, plutôt filmé de nuit, et c'est un clip qui est vraiment très beau, où il y a une ambiance de soir dans Paris, avec justement un peu tout qui s'allume, et donc c'est une chanson qui m'évoque Paris indirectement.
On fera des voyages, mon amour si t'es sage, je suis ton Roméo, et tu es ma Juliette, dans les films, les héros ne sont
Bon, en dérivant sur le clip, Gondry, les réalisateurs, quel réalisateur triste, selon vous, filmait le mieux Paris ?
Quand tu vois des films d'Honoré, c'est quand même une manière de filmer Paris qui est très particulière, que j'adore, mais évidemment que j'adore aussi voir des plans de Romère. Et puis après, il y a aussi une vague qui, moi, me touchait beaucoup, en fait, quand j'étais plus jeune, parce que c'était le moment où j'avais 15-16 ans, où je commençais à tomber vraiment amoureux des filles qu'il y avait dans les films, donc c'était... Là, j'ai les premiers films de Benoît Jacquot, La fille seule ou La désenchantée. Il y avait quelque chose comme ça qui souvent se passait dans Paris, dans des cafés, mais c'était plus tout à fait les cafés de Claude Sautet. C'était un truc un peu froid, qu'il y a aussi dans Un monde sans pitié ou des films comme ça, où il y a un truc un peu désabusé de la vision de Paris, mais qui, c'est quand même attirant, mais ça n'a pas l'air d'aller très bien, mais quand même, ça fait envie quand même. Et tu as ce truc attraction un peu répulsion que, voilà, ça c'est quelque chose que je trouve assez, assez valable en plus, parce que c'est pas non plus la ville qui t'accueille les bras ouverts et qui est hyper confortable. Il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de gens qui te tiennent pas la porte, mais il y a aussi pas mal de gens qui te tiennent la porte. Donc tu as ce truc mêlé, et c'est vrai que ce cinéma-là du début des années 90, je trouve qu'il contenait ça. Je te disais, enfin, j'allais rue Marcadet, autour du Square Carpo, mais c'est vrai que ce coin-là, l'arrière du 18e, la Marcolincourt et tout, c'est, on le voit aussi beaucoup dans Diabolomante ou des films comme ça. Et ça, c'est des choses qui étaient un peu une mythologie pour moi, parce que ma mère, elle était au lycée Jules Ferry. Il se trouve que dans sa génération, ou à un an d'écart, il y avait Diane Curis. Donc quand Diane Curis a fait Diabolomante, c'était un... C'est un film qui retraçait exactement l'époque où ma mère y était. Donc une fois, elle m'avait dit, quand j'étais, je sais pas, j'avais 12 ans, bah, si tu veux voir comment c'était quand j'avais ton âge, t'as qu'à regarder le film ce soir.
Dans tes classes de lycée, il y a tes rêves et tes secrets.
Si je pourrais aller à ce manège, j'ai très mal au ventre.
Ah bon ? Qu'est-ce que vous avez comme cours cet après-midi ?
2 heures de maths.
T'as déjà couché avec un garçon ?
Bah, moi, j'ai couché avec un garçon.
Bah, qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est allongé à côté de moi. Il a lu un Spirou.
Je crois que c'est François Mauriac qui disait que Paris est une solitude peuplée.
Alors, attends, une solitude peuplée...
C'est la phrase qui semble sympa, et puis après, on
non, si, si, c'est vrai, c'est vrai. En fait, tous ces trucs-là, sur le moment, t'es jamais très contre. Enfin, tu te dis, bon, ah ouais, c'est pas mal. Il y a des gens qui ont un pouvoir de conviction sur les choses qu'ils vont dire, et puis tu le redis toi, tu dis, oh, bah non, en fait, ça marche pas, mais c'est joli, solitude peuplée, c'est joli.
Il y a Guitry aussi qui disait, être parisien, c'est ne pas être né à Paris, c'est y renaître.
Ah oui, bah, c'est déjà trop compliqué pour moi.
Vous vous sentez parisien, Vincent ?
Pas vraiment, pourtant ça fait 20 ans que je suis là, mais j'ai beaucoup rêvé de vivre à Paris et du coup je me sens toujours un peu dans cet état, même si c'est là que j'ai vécu le plus dans ma vie. Je viens vraiment d'un village où j'ai été jusqu'à 15-16 ans, donc évidemment c'était très marquant, Beaumont-le-Roger, qui vient de créer son Instagram d'ailleurs, j'ai vu, c'est incroyable. Il y a un Instagram Beaumont-le-Roger, je me suis abonné, du coup régulièrement je reçois des photos du village et tout, c'est très, une expérience très étonnante entre Mia Weiss et Sophie Fontanelle, ça fait un drôle d'effet. Et alors, après, j'ai passé presque 10 ans à Rouen, mentalement, où j'ai fait mes études, et c'est la ville où j'ai vraiment eu l'impression de mettre en place un peu ma vie, quoi. C'est un peu pompeux comme formulation, mais je veux dire que c'est là que je me suis dit, bon, je vais faire des chansons comme ci, comme ça, que les premiers spectacles que j'ai pu faire, finalement, ont été un peu déterminants aussi, parce que j'étais entouré par des gens qui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, qui avaient assez vite ont eu confiance en moi, m'ont laissé écrire le spectacle. On jouait à la fac et on était tout jeunes, évidemment, parce qu'on était étudiants. On jouait dans un amphi. Le lendemain, on allait en cours, on était assis à côté de gens avec qui on était en cours, qui nous disaient tout bas, ah, « Je suis venu hier soir, c'était super. » Ça a été très fort, en fait, de connaître ça. Pour moi, ça a été le truc le plus fort. C'est lié aussi au fait que c'était l'époque où mon père a fait ce livre qui a tant marché, La première gorgée de bière, et que finalement, moi, mon expérience, entre guillemets, de la notoriété, ça a été d'être dans les cours de la fac, d'être le fils de cet écrivain. C'était un truc qui a pris beaucoup plus de place, par exemple, que le fait de sortir un premier album et de faire de la promo ou de faire des tournées. Enfin, je veux dire que c'était tellement passé de quelque chose qui n'existait pas du tout de ce côté-là, puisque mes parents faisaient des livres, mais n'étaient pas connus. Donc découvrir ça d'un coup, je sais pas, j'avais 20 ans quand La première gorgée de bière est sortie, et je voyais les gens, ils me montraient du doigt, j'étais le fils du mec qui avait fait ce livre, et c'était même des profs qui m'en ont parlé à la fin des cours. Honnêtement, c'était quand même assez marrant, c'était agréable, j'aimais bien ça. Les gens ils te disent toujours ouais, c'est pas nana, c'est compliqué, nana, bon, là on le voit, c'était plutôt excitant. Et puis comme j'ai toujours quand même été quelqu'un qui était plutôt assez bien assumé la culture familiale, ça allait.
Vous êtes donc un amoureux de Paris ?
Ah bah oui. Paris, c'est une ville où il y a une tolérance pour dire je sais pas comment vous faites pour vivre à Paris, moi je pourrais pas, tu vois. Si tu dis ça sur Brest, mais qu'est-ce que tu te prends dans la tronche, quoi, tu vois ? C'est drôle. C'est-à-dire qu'à Paris, on a le droit. On a le droit de dire aux Parisiens que vous êtes un peu con de vivre à Paris parce que c'est tellement pollué, la mer est tellement un Hidalgo que... Tu vois, je sais pas, il y a une sorte d'autorisation. Je sais pas s'il y a ça sur toutes les capitales du monde, mais en tout cas, à Paris, il y a ce truc. Et des fois, tu dis aux gens, mais... C'est comme si tu disais, je sais pas comment tu fais pour vivre avec cette personne, presque. Il y a un truc... Moi je suis pas très fan des gens qui vont essayer de te convaincre que c'est génial Paris, c'est des choses qui sont Voilà, il y a des gens qui sont touchés par le rose, d'autres par le bleu, d'autres qui préfèrent les chiens, les chats, les... Enfin, on peut tout entendre, mais en tout cas, quand tu aimes Paris, oui, c'est quelque chose qui est fort et qui est étrange, parce qu'évidemment, tout le monde se pose souvent la question de se dire, bon, peut-être quand même, ce serait bien d'aller vivre ailleurs et tout, mais c'est difficile de quitter Paris quand tu y as beaucoup vécu, parce que tu es habitué à ça, et puis tu as ça un peu en toi. Ouais.
Vous avez justement, il y a quelques jours, posté une photo sur Instagram, parce que vous baladez beaucoup dans Paris avec votre Leica,
ouais.
Où quelqu'un était surpris que vous preniez Paris en photo.
Ah oui, oui. En fait, ce que j'ai pas mis dans la légende de la photo, même si c'était une photo qui était plutôt assez longuement légendée, puisque j'avais cet échange avec cette personne qui remarquait que beaucoup de Parisiens, bien qu'étant Parisiens, continuaient de faire des photos. Mais j'étais au Champ de Mars, donc il y avait la Tour Eiffel. C'est ça qui le surprenait. Il disait, les Parisiens, ils photographient la Tour Eiffel. Mais j'ai remarqué aussi que vous faites beaucoup de photos, les Parisiens, de Paris. Et lui me disait qu'il venait du Cameroun, qu'il était de passage. Et que voilà, c'était quelque chose qui n'était pas présent pour lui. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais le prendre en photo. Et puis, comme je voulais le prendre un peu en étant moi assis au sol et lui se détachant sur le ciel bleu, il m'a dit, mais là, on va pas voir Paris. C'est comme si vraiment, tu fais des photos que pour avoir Paris. Je dis, bah oui, mais bon, ça c'est Paris aussi. On parle. Il me dit, ah oui, c'est vrai. Mais j'aimerais bien que vous fassiez la photo aussi avec mon iPhone, comme ça j'aurais un souvenir de Paris en rentrant chez moi. Tu sais jamais les photos quand ça tombe, quand ça vient, donc... Mais ça m'est arrivé tellement de fois où je me suis dit, bon bah là je sors juste une demi-heure, c'est pas la peine que je l'embarque, non je l'ai toujours sur moi, même pour faire une émission avec vous.
Et ben merci d'ailleurs pour cette première émission, pour avoir accepté d'être le premier artiste à me parler de Paris.
Mais je t'en prie.